Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel dans notre émission Libre Propos. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Dans cette émission, notre évêque Mgr Michel Pansard vient nous proposer des clés de lecture pour donner du sens à notre actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Libre Propos. Mgr Pansard, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour chers auditeurs.
Alors Mgr, en regardant votre agenda, je vois qu'il y a beaucoup de confirmations en ce moment. Qu'est-ce que c'est que la confirmation ?
La confirmation, c'est un sacrement. Un sacrement de l'initiation chrétienne. Vous savez, il y a trois sacrements qui font un chrétien. Puisque pour être chrétien, il ne suffit pas simplement de le vouloir. Et pourtant, il faut bien le vouloir. Il faut dire qu'un « je crois », une volonté de suivre le Christ ou de mettre ses pas, que sa vie soit conduite par cette référence à l'Évangile et au Christ. Mais il faut aussi le recevoir. Et donc les sacrements, tous les sacrements sont un don de Dieu. Et il y a trois sacrements qui font un chrétien adulte. C'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ce qu'on appelle les trois sacrements de l'initiation chrétienne. D'ailleurs, quand un adulte est baptisé à Pâques, il reçoit, après un long temps de préparation, il reçoit ces trois sacrements qui font de lui un chrétien. En ce moment, je confirme des adultes, mais aussi beaucoup de jeunes, qui ont été pour la plupart baptisés enfants et qui, chemin faisant, là, arrivant à l'âge de l'adolescence, demandent la confirmation. Alors, qu'est-ce qu'ils demandent ? Parfois, ils me disent « Ah ben, ce que mes parents ont décidé, moi je le décide. » Mais je dis « Ben ça, c'est une profession de foi. » Donc, souvent ils disent « Je confirme ce que mes parents ont décidé pour moi quand ils nous ont demandé le baptême. » Alors, un peu malicieusement, je leur dis « Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas la peine que je vienne. » Il suffit que tu le dises, ben je le confirme, et puis et tu proclames devant l'Assemblée ta foi. D'ailleurs, c'est ce que font tous les chrétiens à Pâques, c'est ce que font les chrétiens le dimanche, avec la profession de foi.
Et c'est très bien.
Alors, par contre, je leur dis, mais moi, si je viens le jour de votre confirmation, c'est pour demander à Dieu, par mon ministère d'évêque, de successeur des apôtres, c'est pour demander à Dieu de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous rende fort, ferme, dans l'aventure de la foi, pour que vous soyez les témoins dont il a besoin. C'est ça, la confirmation. Pour le dire d'une manière rapide, la confirmation, c'est notre Pentecôte. C'est notre Pentecôte. C'est d'ailleurs une expression du Saint-Pape Jean-Paul II, un jour où il faisait une homélie de confirmation. La confirmation, c'est votre Pentecôte, puisque c'est le don de l'Esprit-Saint qui nous est donné, comme il a été donné aux apôtres, pour faire d'eux les témoins dont le Seigneur a besoin.
Donc ces jeunes deviennent des témoins.
Ils deviennent des témoins. Ils sont engagés, y compris. Être chrétien, c'est être disciple, marcher à la suite du Christ. Et puis, ces disciples de Jésus, à un moment donné, ils sont venus des apôtres, des envoyés. C'est plusieurs facettes d'une même réalité. Mm-hmm. Mais dans la vie chrétienne, il y a le moment où, après avoir découvert, après s'être attaché au Christ, on découvre qu'il compte sur nous. Comme il a compté autrefois sur Pierre, Jacques et Jean, sur Marie-Madeleine, sur la Samaritaine, sur Zachée, il compte sur chacun d'entre nous. Et j'aime dire souvent aux jeunes que je confirme, le Seigneur a besoin de vous, comme il a eu autrefois besoin d'autres, pour que vous soyez des témoins, en particulier dans votre génération. Et moi, votre évêque, j'ai besoin de vous. Pour que vous m'aidiez aussi dans ma mission de successeur des apôtres. Mon boulot, ma mission, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais je n'y arrive pas tout seul. Pour 420 000 habitants, je n'y arrive pas tout seul. Je n'y arrive même pas tout seul avec les prêtres qui sont mes coopérateurs immédiats et les diacres et des laïcs à qui je confie des missions. Et puis, je n'y arrive pas tout seul parce que je dis, je n'oublie pas que quand j'avais votre âge, je trouvais que les gens de mon âge étaient vieux. C'est-à-dire que même si je fais des efforts, j'essaye de les rencontrer, je ne suis pas immédiatement de leur génération. Or, eux, de leur génération, ils en sont. C'est-à-dire qu'ils vibrent. Ils vibrent à ces joies, ces enthousiasmes, et aussi aux angoisses de chaque génération. Et parce qu'ils sont de cette génération, ils sont sans doute les mieux placés pour être capables de dire à d'autres de leur génération que être chrétien, la rencontre du Christ, ça change la vie, ça fait vivre, y compris d'une manière joyeuse, sans faire des chrétiens des gens rabougris, tristes, des vivants.
Incarnés.
Des vivants. D'ailleurs, c'est ce que me disent la plupart des adultes qui demandent le baptême. Ils étaient des vivants, mais ils découvrent que la rencontre du Christ a mis du neuf dans leur vie, les fait vivre. Avec un peu plus de densité, d'une vie véritable.
On pourrait donc dire que cette fameuse Pentecôte, cette venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, continue encore aujourd'hui ?
Mais bien sûr. Pourquoi ça s'arrêterait ? D'ailleurs, vous avez remarqué que l'Esprit-Saint nous est donné dans tous les sacrements. Et que la plupart du temps, y compris quand on rencontre des hommes et des femmes ou des jeunes qui à un moment découvrent l'évangile ou demandent le baptême, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est que bien avant, et souvent eux-mêmes vont leur dire finalement, au moment où je m'en rencontre, je découvre que le Seigneur était là. L'Esprit du Seigneur travaillait avant même que je m'en rende compte. Mmh. D'ailleurs, Karine, nous savons ça d'expérience. Nous connaissons les choses avec des concepts intellectuellement qu'après l'expérience. Moi, j'ai fait l'expérience d'être aimé de mes parents bien avant de pouvoir parler et donc de pouvoir dire « Ah, je suis aimé de mes parents ».
C'est juste.
Hein? Mmh. Regardez la relation, tout ce qui se passe entre un enfant et sa mère. Hein? Il y a cette expérience d'être aimé avant même de le conceptualiser. Mais après, une fois qu'on est capable de parler, « Ah, mais... » Je découvre que je ne suis pas aimé simplement à partir du moment où je suis capable de le dire. Eh bien, je découvre que je ne suis pas objet de l'amour de Dieu simplement à partir du moment où je m'en rends compte. Le Seigneur était là et je ne le savais pas, comme dit d'ailleurs Jacob dans le livre de la Genèse.
Alors, le Seigneur est là et ces jeunes sont là, même tous ces confirmés que nous sommes. Donc, tous appelés à agir aussi dans l'Église.
Oui, de prendre leur part. Alors, hein, regardez, l'autre jour, dans quelques jours, je vais en confirmer 120.
Eh bien.
J'en ai confirmé 80 l'autre jour à Dreux. Au départ, ils étaient que 12. Alors, regardez ce qu'on peut faire à 120 ou à 200.
C'est très vrai. Hein,
si chacun prend sa petite part de témoignage, le Seigneur n'attend pas qu'on soit des sur-hommes ou des sur-femmes ou des sur-jeunes. Hein. Comme les apôtres, il a pris des gens avec leur fragilité, leur pauvreté, leur péché, mais aussi leur générosité, leur enthousiasme. Et puis si chacun, finalement, quelle est la vocation que nous avons à mettre en œuvre ? Conduis-toi à l'égard des autres, de ceux que tu rencontres, que la vie te fait rencontrer, à la manière dont tu as goûté que Dieu se conduit vis-à-vis de toi, c'est ça. On peut donner que ce qu'on a reçu.
Et c'est très vrai.
De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, dit Pierre, au boiteux de la Belle Porte, au matin de Pentecôte. Mais ce que j'ai, je te le donne.
Vaste programme.
Vaste programme.
Alors justement...
Donc voilà, le temps de la Pentecôte, nous y sommes depuis la Pentecôte.
Alors justement, nous témoins dans le temps de cette Pentecôte, donc qui continue, dans le diocèse, il y a eu ce grand travail qu'on a entendu concernant le synode de la famille, où beaucoup de groupes se sont réunis, je crois qu'il y a une trentaine
de groupes, oui.
Ce qui fait presque
ils se sont réunis trois fois, et à chaque fois, ils ont fait un compte-rendu. Donc, ça, vous voyez, 90 comptes-rendus.
Sur le synode de la famille.
Sur le synode de la famille. Mmh. C'est donc sur le texte de travail du futur synode. Ce que la plupart m'ont dit dans ces comptes-rendus, c'est d'abord leur joie d'avoir été consultés avant le synode. Et pas simplement de travailler après le synode sur les résultats du synode ou sur le texte du synode ou sur l'exhortation apostolique, d'être considérés comme des membres ayant à participer au discernement que l'Église a opéré sur les questions nouvelles qui se posent concernant la famille dans le monde d'aujourd'hui, et pas simplement dans notre hexagone, mais à l'échelle de toute la planète. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, y a des réactions très diverses, suivant les équipes. Certains ont trouvé le texte très intéressant, accessible, d'autres ont trouvé rébarbatif, avec un langage de célibataire et de curé. Si c'était des gens mariés qui avaient écrit, ils n'auraient pas écrit les choses de la même manière. Donc il y a des choses à entendre. Certains ont signalé aussi le fait qu'il y a, des, il y a des, les choses qui les stimulaient dans le texte de travail, puis d'autres, des manques ou des absences. En particulier, il y a eu telle ou telle expression qui, trop isolée, risque de laisser entendre que la solitude est liée à un manque de foi. Oh. Plusieurs me disent, mais quand on est veuve, quand on est, y a des situations, et donc comment on prend en compte le fait que, un célibataire, un veuf ou une veuve, etc., c'est des situations qui n'ont pas été choisies et qui ne sont pas, hein, et donc comment, là aussi, ils sont, tous ces hommes et ces femmes sont aussi engagés dans des réseaux familiaux, la famille étant plus large que simplement le cercle conjugal ou la...
Ce travail.
Donc voilà, il y a des éléments qui sont venus. Bien sûr aussi, il y a toutes les approches ou toutes les réflexions autour de... qui sont venues vers la fin du texte sur les situations matrimoniales complexes, difficiles, en particulier la situation des fidèles divorcés, remariés, est-il ou non possible, comment et à quelles conditions d'avoir un accès au sacrement. Donc voilà, il y a des réflexions, il y a des suggestions qui sont faites.
Donc quelque chose d'extrêmement riche en fait. Hein,
oui, enfin, donc j'ai fait moi un compte-rendu. Alors vous voyez, j'ai reçu 90 pages au moins de compte-rendu. Je devais faire une synthèse de 4 pages.
C'est dur.
Chaque diocèse a fait une synthèse de 4-5 pages. Ensuite, c'est envoyé au plan national qui aura une synthèse nationale. Chaque pays fait la même chose pour un document qui sera le document de travail du synode qui va avoir lieu en octobre, que nous aurons l'occasion de suivre. Et puis nous aurons aussi à suivre, pas simplement le synode lui-même, mais voilà, le dynamisme qu'enclenchera ce synode. Moi, je n'attends pas de révolution du synode, parce que ce n'est pas l'objet du synode. Ce que j'attends, c'est... Hein, voilà, hein, on voit bien, d'ailleurs, c'est un des soucis, comment prendre en compte la famille, qui n'est pas simplement que le mariage, hein. Hein, la situation de la famille, en particulier les enfants dans la famille. Ça, c'est aussi un des manques qui a été souligné par telle ou telle équipe. Hein, et puis, comment soutenir ? Il y a des remarques qui sont venues, dire, voilà, quand on se marie, c'est pour la vie, et ça se prépare en 3 réunions, est-ce que c'est bien ajusté ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire davantage ? En tous les cas... Il y a aussi à prendre en compte que ce n'est pas parce qu'on s'engage dans une belle, belle aventure et riche aventure que le chemin est un chemin tout droit, tout tracé. Et donc, quel est l'enjeu, hein, de, voilà, comment on peut se soutenir aussi, hein, au sein de communautés chrétiennes quand des difficultés sont rencontrées, quels sont nos points d'appui et pas simplement... la préparation initiale, mais chemin faisant, parce que la vie conjugale, la vie familiale, elle est marquée de différentes étapes, comme chacune de nos vies. Hein. Mmh. Moi, je ne vis pas ma vie familiale aujourd'hui, à presque 60 ans, comme je la vivais quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans, hein, compris parce que ça se déploie, nos aspirations, nos attentes ou les épreuves ne sont pas les mêmes. Je commence à arriver d'être le premier de cordée. Hein. Mon père est décédé, ma mère avance en âge. Il y a un moment donné où je serai le premier de cordée. Comme j'ai entendu un jour ma mère au décès de son dernier parent, maintenant je suis le premier de cordée.
Monseigneur, merci beaucoup. Chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver pour un prochain Libre Propos.